Koh-Lanta, les quatre terres, c'est déjà l'épisode 9 avec les doubles éliminations de Bertrand Kamel et de Joaquina. Salut à tous, bienvenue pour cet épisode d'Autour du Feu, je suis Damien et comme d'habitude pour ce dimanche, quatre intervenants autour de moi, des anciens, pas des anciens de Koh-Lanta, hein, quoique ce serait pas mal, mais des anciens qui sont déjà intervenus dans le podcast et on va tout de suite commencer avec quelqu'un du Nord qui doit être content aujourd'hui puisque cet épisode a beaucoup mis à l'honneur des deux candidates du Nord, on en parlera après, c'est notre ami Clément. Salut Clément.
Bonsoir à tous. J'ai même pas réussi à faire mon propre accent.
Bon, est-ce que tu veux faire l'accent? Est-ce que tu arrives à faire l'accent?
Attends. Non, dommage, j'ai pas l'accent sauf le « hein ». Mais là, j'arrive pas à le faire là maintenant. Je suis déçu.
Vas-y, mais c'est que tu n'es pas un vrai nordiste du coup.
Ouais, l'autre est... Déjà mieux.
Bon, est-ce qu'il t'a plu cet épisode?
Oui, moi j'ai bien aimé.
Du coup, on va passer au deuxième. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà vu beaucoup de fois et on est toujours très, très, très content de l'avoir. Hein, du genre belge, portugais, on ne sait pas trop. C'est notre ami Wilson du podcast sport. Salut Wilson.
Et salut Damien, salut Clément.
Tu es belge.
Alors, toi, pareil, est-ce que tu as apprécié cet épisode?
Coucou.
Alors, les épisodes passent et se ressemblent un peu. J'ai l'impression que on a de plus en plus de moments sur le camp à la fin, et ça, c'est pas pour me déplaire, et j'ai bien aimé le déroulé de l'épisode d'aujourd'hui, clairement.
Nous allons ensuite passer à notre troisième intervenant, quelqu'un qui était déjà venu, et qui avait fait du plutôt bon travail d'ailleurs. Tous les vendredis soirs, donc, je tiens aussi un live avec Alex Arbeil donc, sur Twitch, et il vient souvent intervenir avec moi, c'est notre ami Boubac. Salut Boubac.
Salut à tous, vous allez bien?
Bah écoute, ça va un petit... En plus, c'était changement d'heure, donc ça nous a permis à tous de dormir une heure de plus pour être vraiment frais dispo. Et toi?
Bah ça va super. Sur l'épisode, je l'ai bien aimé. Un très bon épisode. Bien rythmé, pas de temps mort. Enfin bref, un bon épisode de Koh-Lanta comme on les aime. Et beaucoup de choses à dire.
Avec nous aussi, évidemment, bah, le chat qui est là, donc il y a pas mal de gens, et plein de casteurs qui disent « c'est moi, on dirait que Damien est bourré ». Non, 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 j'ai juste pris un café, tout va bien. Dis bonjour à Billy, Blondingy, Kamitso, Capu, Derjudge, Formosé, Gamer du 31, Gargo, donc plein d'autres, je vais pas tous les citer, mais encore un chat bien rempli aujourd'hui. Et, mais non, on en a un cinquième qui s'est invité en toute dernière minute avec nous. Notre comique, c'est notre ami Madargine. Salut mon Madar.
Salut Damien, comment ça va?
Bah bien et tout. Non, je suis pas bourré, je suis en pleine forme. Donc c'est en pleine forme, toujours bien. Et toi, du coup, est-ce que tu as aimé cet épisode? Est-ce que tu as des petits jeux de mots chamarrés comme ça à nous présenter?
Des jeux de mots comme ça, je verrai si ça vient. Après, ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je l'ai vu en différé, puisque j'avais du boulot vendredi soir. Bon, je vais pas raconter ma vie. Mais j'ai vu en différé, j'ai pas été inondé de pubs, ce qui a sublimé mon plaisir. Et non, c'était un épisode dans lequel il se passait beaucoup de choses. On a un peu moins vu ce qu'on voit tout le temps. Non, c'était vraiment très sympa à voir.
Juste avant l'épreuve de confort, on voit Laurent qui essaie de justifier l'élimination d'Adja auprès de Bertrand Kamel. Bertrand Kamel qui a l'air de le prendre comme ça plutôt bien, qui a l'air de plutôt bien prendre les réactions de Laurent. Et moi, je voulais vraiment me focaliser là-dessus parce que Laurent parle certes beaucoup de mérite, mais il est quand même extrêmement filou. Alors tiens, bah, on va commencer par Clément. Toi, tu penses quoi de Laurent justement et de sa tactique pour l'instant dans ce début d'épisode?
Alors, moi j'étais en train de jouer à Mongus à ce moment-là. Je suis arrivé à l'épreuve de confort. Mais mon avis sur Laurent, c'est qu'en fait, je trouve que c'est quelqu'un de assez, qui est assez instable en fait. Genre, il cache en fait son jeu, je trouve. Ça va marcher pour la suite? Parce que peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte, bah, Laurent, en fait, à chaque fois, il me dit, il parle de mérite, mais à chaque fois, il va voter stratégiquement. Est-ce que les gens vont, au bout d'un moment, se retourner contre lui parce qu'il mytho tout le temps? C'est mon inquiétude sur Laurent, qui est un candidat que j'aimais bien à un moment, moi je l'aime moins bien maintenant.
Boubac.
Sur Laurent, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Je considérais jusqu'à là qu'il avait plutôt pas mal joué son coup. Mais est-ce que justement le fait qu'il vote pour Joaquina et que Bertrand Kamel va peut-être s'en rendre compte au jury final ne fait pas de lui un type qui aura trahi sa parole et qui sera moins aimé au jeu final. En fait, j'aime beaucoup le joueur. Ça se voit qu'il mange à 25 râteliers. C'est un genre de joueur que j'aime beaucoup. Qui joue pour l'instant assez bien sa partition. Qui joue somme toute assez filou. Qui profite du fait qu'il soit en majorité avec les jaunes. Qui s'est clairement rallié aux jaunes, notamment à la mouvance Dorian Alix. Et on va voir dans le prochain épisode si c'est très bien joué de sa part ou si on va le remarquer. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup le personnage. C'est vrai que certains le considèrent comme totalement hypocrite et faux-cul. Pas pour me déplaire. Mais en tout cas, j'espère qu'il va aller loin. Comme certaines candidates dont on va parler plus tard, j'espère qu'il va aller loin et j'espère qu'il va faire du bon jeu. Parce que c'est ce qu'on attend d'un candidat que de Koh-Lanta.
Wilson.
Alors, Laurent, depuis le début, bon, on sait que chez les Verts, il n'était pas forcément bien placé, mais depuis qu'il y a eu les reformations d'équipe, on sent qu'il essaie de se placer tout juste au milieu, entre les gens très méritants qu'il va rassembler et également les autres qui sont vus comme moins méritants. D'ailleurs, lui, il a beaucoup ce discours du mérite qui va forcément plaire aux gens qui sont plus méritant entre guillemets ou plus sportif comme Alix ou Dorian. Et il va se placer au milieu. Et il était en plein milieu avec les Verts d'un côté et les anciens jaunes de l'autre. Et il va toujours jouer des deux côtés. Il va aller chez BK dire on a voté Adja, mais moi je veux continuer avec toi. Il va chez Dorian et Loïc, il va essayer de les influencer. Et il est tout le temps dans cette mouvance à aller chez les deux. Et il se positionne dans la meilleure zone possible. Malheureusement, je pense qu'au final, son choix de l'épisode d'aujourd'hui, bon, il n'avait pas forcément de marge de manœuvre parce qu'il a suivi la majorité, mais n'est pas forcément celui-là qui va le plus l'avantager d'ici la fin du jeu. Et il ne faudrait pas qu'il se perde dans cette situation à être entre les deux tout le temps et finir par trahir les deux camps et se retrouver comme celui qui va être jeté près de la fin du jeu.
Bah, surtout qu'il n'a plus les Verts là, à droite, donc il n'a plus du tout le lien dans les anciens rouges. Enfin, il reste Ava, il reste Fabrice et je ne sais plus qui.
Brice.
Et Brice. Et du coup, voilà, il n'a plus le lien avec eux, vu que le lien qu'il avait, c'était Bertrand Camel qui a été éliminé à l'épreuve d'immunité. Et du coup, il n'a plus du tout le lien à droite, enfin à droite chez les rouges, je veux dire. Et voilà. Donc je pense que c'est là il a beaucoup perdu cet épisode en tout cas.
Oui, moi c'est ce que je pense aussi.
En vue du jury final, effectivement. En vue d'un potentiel jury final, effectivement.
Mais même dans le jeu actuel, il n'a plus de lien, à part les jaunes. Maintenant, il ne lui reste plus que les jaunes et Loïc.
Voilà, il peut plus que suivre.
Voilà, c'est ça. Ces liens ont été virés un par un et du coup, bah, il n'en a plus. Il sera obligé de suivre.
Et d'ailleurs, par rapport à la fin de l'épisode, puisqu'on, bah, comme on l'a dit, donc c'est Joaquina qui a été éliminé. Est-ce que c'est pas justement les anciens Verts, mais qui étaient plutôt le trio de lead des Verts, qui est davantage visé, et Laurent et Alexandra, qui étaient plutôt en bas de l'alliance des Verts, et qui se sont retournés contre eux pour pouvoir avancer en incluant avec eux toute l'équipe des Jaunes. On t'a pas entendu, Madar?
Ben, sur Laurent, je m'étais un peu exprimé la semaine dernière à son sujet, c'est-à-dire que moi, le fait que d'un côté il ait ce côté stratège et que de l'autre côté il ait ce discours sur le mérite ou ce discours un petit peu jugeur comme ça sur les autres candidats, moi je pense vraiment que ça risque de lui jouer des tours. C'est-à-dire que ce que je voyais un peu plus tôt dans le chat, il y a Marc qui disait que Laurent était peut-être en train de faire du jury management, c'est-à-dire en gros de préparer un peu de jury pour le vote final. Et moi c'est pas du tout l'impression que j'ai quand je vois déjà quand Adja s'est retrouvé dans la résidence du jury final. C'est-à-dire que bah, Adja, elle est un petit peu amère contre Laurent aussi. Ce qui est normal, parce que Laurent lui l'a plus ou moins présenté comme une fille qui foutait rien sur le clan. Enfin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je m'en fous, mais ce que je veux dire, c'est que quand déjà le deuxième membre du jury t'en veut, et on sait que c'est une personne qui va avoir une influence sur tout le reste du jury qui va arriver au fur et à mesure. Pour moi, Laurent est en train de foirer complètement son jury management. Donc, moi, ça me dérange pas. Après, c'est vrai qu'il est intéressant en tant que joueur. C'est vrai que c'est intéressant de voir quelqu'un qui est stratège, qui est fourbe, qui bouffe à tous les râteliers et tout ça. Mais, d'un point de vue de la stratégie individuelle du candidat, pour moi, il est en train de se tirer une grosse balle dans le pied, quoi.
On a Marc sur le chat qui dit c'est plutôt que Laurent est plutôt un finaliste perdant qu'on va choisir parce qu'on sait qu'on va gagner par défaut contre lui.
C'est exactement comme ça que je vois les choses. C'est que Laurent est en train de se construire vraiment ce profil de goat, quoi, de chèvre qu'on emmène avec soi et qu'il ne se met pas du tout en position pour gagner.
À propos de. Donc on a parlé de Laurent, maintenant on va passer plutôt à l'épreuve de confort, qui est une épreuve qui était déjà apparue dans Koh-Lanta et aussi dans Survivor, où il fallait tout simplement se maintenir son pied en équilibre contre une planche qui, et au bout de la planche, il y avait des jarres, et celui qui fait tomber les jarres a perdu. Mais le twist qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait trois récompenses de confort, donc il y avait un indice pour le collier, un burger et un petit soin douche et jus de fruits, et que du coup chacun pouvait se battre un petit peu contre les autres pour déterminer qui aurait quoi. Ça c'était un twist plutôt intéressant et c'est la première fois qu'on le voit dans Koh-Lanta, je crois.
Ouais, Denis l'a dit.
C'est la grande nouveauté de l'épisode. La toute première fois dans l'histoire de Koh-Lanta.
Alors, vous, dans le jeu, par exemple, qu'est-ce que vous auriez préféré? Admettons, là, évidemment, vous n'êtes pas dessus, vous ne pouvez pas forcément savoir avec la fin et tout, mais est-ce que vous auriez préféré le burger, l'indice collier ou le petit soin douche?
Ça dépend, je pense, de la position que tu as dans le jeu. Si je suis à la place de Lola et que j'ai déjà un collier, son choix, il est excellent. Parce que si elle perd, on va penser pourquoi elle aurait joué un collier. Elle aurait essayé de gagner un collier alors qu'elle a déjà un collier. Si elle gagne, elle peut avoir un deuxième collier, mais personne ne s'attend à ce qu'un joueur ait deux colliers. Et donc son choix était presque parfait. Derrière, moi, j'aurais sûrement pas pris l'hamburger. D'ailleurs, Alexandra, si elle devait refaire l'épreuve, je crois qu'elle n'aurait pas pris l'hamburger. Mais même toutes les autres épreuves un peu de confort individuel comme ça, moi, j'aurais pris le collier, je pense, rien que pour le côté stratégique où je peux utiliser pour me rapprocher d'autres joueurs, par exemple si je partage mon indice avec quelqu'un, même en ayant déjà trouvé le collier, par exemple je trouve le collier et puis je vais faire semblant de le rechercher avec quelqu'un, et c'est toujours un peu un bon moyen de créer du lien avec les joueurs et de créer de la confiance.
Boubac,
pareil que Wilson, ça dépend de la position dans laquelle tu es dans le jeu. J'avoue qu'un confort douche m'aurait fait du bien ce stade du jeu, parce que c'est important de bien se sentir. Mais c'est vrai que le collier, c'est souvent les conforts un peu casse-gueule. Ça dépend de ta position. Est-ce que prendre un collier va te permettre de bien jouer et surtout de te remettre dans le jeu? C'est une question qui se pose. Mais effectivement, je pense que j'aurais pris l'indice.
Donc c'était bien vu de la part de Lola, c'était pas une grande stratégie, mais c'était plutôt efficace de se rendre insoupçonnable en termes de collier et puis de pouvoir choper un petit peu cet indice, même si elle a été visée par la suite. Est-ce que c'était un bon choix pour vous? C'est quelque chose que vous auriez fait, Madar?
Moi, je pense effectivement, si j'avais eu un collier déjà, peut-être que j'aurais fait un truc dans le genre. Après, je pense que si je participais à Koh-Lanta, j'essaierais plutôt de la jouer discrètement. Donc, c'est le problème, c'est que là, elle s'est mise une cible sur le dos. Pour cette fois-ci, c'est passé. Est-ce que, du coup, elle va pas encore avoir une cible sur le dos au prochain conseil, puis au suivant, puis au suivant? Voilà, ça, c'est un petit peu toujours la question qu'on peut se poser. Donc après, voilà, je pense qu'une bonne décision de sa part, c'est vraiment maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça? Moi, je pense pas que je l'aurais fait parce que je serais pas du genre à prendre du risque comme ça. Mais en tout cas, je pense que le prince Lola joue très très bien son truc. Et j'ai hâte de voir comment elle va faire par la suite.
Clément?
Personnellement, on va déjà, par rapport à l'épreuve, j'aurais choisi en fonction de l'épreuve en elle-même. Est-ce que j'aurais été capable de la gagner? Genre, moi, cette épreuve-là, par exemple, j'aurais dit, je sais que je vais pas la gagner parce que, voilà, j'aurais remplacé Fabrice dans cette épreuve, clairement. Bah, j'aurais choisi le burger pour pas porter l'attention sur moi. Alors qu'une épreuve où j'aurais eu plus de chances de la gagner, genre, je sais pas, un truc de Pulse, par exemple, je me dis, celle-là, je peux clairement la gagner, je prends l'indice pour mon jeu. Après, pour Lola, je pense que oui, elle a fait la bonne décision parce que, oui, comme ça a été dit, elle peut faire. Personne ne va se douter qu'elle n'a pas un collier déjà avant. Alors que, si, maintenant, elle a deux colliers et je pense que déjà, ça la place très bien, sauf si elle se fait blindside d'abord avec. Je pense que ça se placera très bien Angélique dans ces cas-là. Et après, voilà, si elle joue un collier, tout le monde va dire, elle n'a plus de collier, allez hop, c'est bon, on peut voter Angélique, on s'en fiche, quoi.
Brice remporte le petit soin douche. Alexandra gagne le burger et elle aura eu toutes les peines du monde à le terminer. Et Lola a l'indice pour le collier d'immunité. Alors, on a eu 5 bonnes minutes de Brice qui se faisait masser, qui fait son shampoing, qui bon. Il y a eu une vanne très très drôle de Frise qui disait que Brice l'avait, on aurait dit Isabelle Balkany. Ça, j'ai trouvé ça un peu drôle. Et voilà, c'était 5 minutes un peu, c'est un peu inutile, ça méritait pas d'être aussi long. Et on a vu aussi donc la recherche du collier par Lola, qui galère un petit peu, qui est avec Angélique, et qui s'est sentie un petit peu suivie, qui se sentait un peu menacée aussi. C'est que les gens la suivaient et qu'elle pouvait pas chercher le collier un peu comme elle voulait. Et après ça, donc, est-ce que vous avez vu des choses aussi entre les deux intéressantes?
C'est vrai qu'on a été très très rapidement. En deux pubs, on avait les deux épreuves annoncées. Et du coup, on a toute la deuxième partie sur la stratégie en fait. Donc vraiment entre les deux épreuves, il n'y a quasiment rien eu à part Brice qui se fait masser, Brice qui fait son shampoing et Lola qui cherche le collier quoi.
Moi j'ai quand même un truc à dire sur ce qui s'est passé entre les deux. C'est Fabrice a été montré. Ouais, Fabrice trouve ce poisson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il trouve le poisson. Ça en fait toute une histoire du poisson. Le poisson qui redonne le sourire, le poisson qui redonne la vie, le poisson qui fait la taille de mon doigt. Et Fabrice est montré comme celui qui amène le bonheur et comme un travailleur. Donc il passe complètement. En fait, on prépare déjà le conseil qui va suivre avec ce genre de montage, je pense, où on dit Fabrice ne va pas du tout être ciblé, mais plutôt comme quelqu'un qui va être montré comme un vote pivot. Moi, je l'ai vu comme ça. Il se trouvera que c'est un peu la vérité derrière. Mais en tout cas, j'avais pris mes notes. Et quand j'ai pris mes notes, donc voilà. Fabrice est montré comme celui qui amène le bonheur dans le camp avec sa pêche et avec son travail. Un peu un profil à la Cédric. À la Eric, pardon, de la saison dernière. Et je pense que Freeze doit adorer le personnage.
Alors, on va tout de suite passer du coup à l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui consistait en une espèce de parcours assez nul et assez inutile pour ensuite avoir l'épreuve des grappins où il fallait jeter un grappin pour avoir trois pièces de bois. Et celui qui ramenait les trois pièces de bois gagnait l'épreuve. Et cette épreuve est un truc que nous détestons ici à ADF. C'est une épreuve éliminatoire et on a eu, c'est vrai que cet intense moment d'émotion vendredi soir lors de l'épisode, c'est-à-dire que Bertrand Camel a été éliminé sur cette épreuve. Donc l'émotion qui a été partagée vraiment, je pense, par tout Internet, par tous les téléspectateurs. Bon, je crois, soit ça, il y a peu de choses à dire, c'est que Bertrand Camel, il était très 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 apprécié par ses camarades et que du coup son élimination un peu choquante. À laisser un peu tout le monde dans la tristesse. Et ça, justement, que c'était cette épreuve éliminatoire dans le combat des héros qui avait aussi éliminé Dylan. Et en général, c'est cette épreuve-là, quand ils la font éliminatoire, c'est toujours un gros personnage qui sort parce que c'est pas une épreuve tant sportive, mais plus vraiment d'adresse et de patience. Donc cette épreuve, c'est Angélique qui l'a gagnée. Et tu voulais dire, Boubac?
Et surtout, c'est une épreuve qui fait que les gros personnages peuvent passer à côté. Une épreuve, c'est pas une épreuve linéaire type un parcours de combattant. C'est une épreuve vraiment où un gros peut passer à côté. Et on a vu les deux gros personnages comme Dorian et Becca passer totalement à travers de l'épreuve.
Ouais, parce que du coup, la finale, si je peux dire, c'est-à-dire que la lutte pour ne pas être éliminé directement, c'est joué entre Dorian et Becca, qui sont parmi les deux plus gros personnages de la saison. Et c'est vrai que quelqu'un comme Dorian, qui a un profil plutôt sportif, que la prendre met beaucoup en avant justement pour ces raisons, c'était un peu inattendu de le voir dans cette position-là. Et ça peut faire en sorte de remettre en question le fait d'avoir des épreuves éliminatoires. Bon, on n'y croit pas, mais c'est une réflexion qu'il faut toujours avoir, parce que ça reste quand même, c'est Koh-Lanta, c'est un jeu social, c'est un jeu d'élimination, et c'est les épreuves, enfin pas les épreuves, mais les éliminations devraient surtout se faire par le vote plus que par une épreuve. Vous, sinon, donc cette épreuve, son résultat, parce que c'est Angélique donc qui l'a gagné, c'est pas quelqu'un qu'on s'imaginait remporter une épreuve. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire plus globalement sur cette épreuve? Du coup, on va demander à Madar.
Très bien. L'épreuve éliminatoire, moi, j'ai un peu le même souci avec qu'avec les ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui répond à des règles complètement différentes que le reste de l'émission. C'est-à-dire que Koh-Lanta, nous, on voit plus ça comme un jeu stratégique et social. Où c'est vraiment le fait de se placer dans les alliances, de bien se placer par rapport au vote qui fait qu'on est éliminé ou qu'on reste. Et là, finalement, c'est une épreuve sportive, mais aussi de concentration, qui va déterminer que tu vas sortir sans aucun moyen de te défendre. C'est un peu comme si au milieu de Roland-Garros, on disait, bon, finalement, tous les deux, vous n'avez pas fait un match de tennis aujourd'hui, vous allez faire une partie de Scrabble. Donc, du coup, là, c'est un peu bizarre. Donc encore une fois, bon, on est quand même dans l'idée, c'est choquant pour la pour un moment de télé, c'est sympa pour une émission, mais au niveau de l'équité du jeu, est-ce que c'est vraiment voilà, c'est, au niveau de l'équité du jeu, c'est pas terrible. Et puis on voit que là, ben là, c'est Bertrand Camel qui est éliminé alors que le mec est super populaire, qui est très apprécié par les candidats, qui a priori était quand même assez bien placé pour la suite du jeu, même si je pense qu'il était quand même un peu en danger quand même. Mais et puis surtout voilà, on a des précédents de ce genre d'épreuves qui font sortir des candidats qui sans ça auraient pu aller plus loin. Enfin oui, de manière évidente, mais je veux dire qu'ils auraient pu aller très loin s'il n'y avait pas eu cette épreuve à la con qui les empêchait de mettre en place leur jeu et qui les faisait éliminer juste sur un aspect du jeu. Après, là où cette année j'ai quand même trouvé que c'est un peu plus positif que d'habitude, c'est que j'ai quand même souvent l'habitude que l'éliminé de l'épreuve éliminatoire était quelqu'un issu de l'alliance majoritaire. Ce qui faisait que, certes, ça faisait une élimination surprise, mais ça prolongeait le supplice un petit peu de la stratégie d'anéantissement de la tribu minoritaire. Là, cette fois-ci, vu que c'est quelqu'un de la tribu minoritaire qui est éliminé, ben finalement, peut-être qu'on va arriver plus vite à ce moment qu'on attend, c'est-à-dire au moment où il n'y aura plus cette dichotomie entre les jaunes et les rouges, et qu'on va enfin passer à une vraie stratégie où les gens qui se croyaient en sécurité vont enfin devoir se mouiller un petit peu, se salir un petit peu les mains. Quoi. Donc, peut-être que cette élimination, le fait que ce soit un rouge qui sorte, c'est peut-être un mal pour un bien, pour le coup. Et après, c'est vrai aussi que vu le nombre de candidats, ils étaient un petit peu obligés de faire une élimination comme ça à un moment, puisque le problème c'est qu'ils ont casté beaucoup trop de candidats cette année, enfin cette saison, et ben ils sont obligés d'en éliminer plusieurs à la fois. Donc après sinon, est-ce que ça va remettre en cause les premiers éliminatoires? Moi je pense pas. Alors surtout qu'en plus ils ont dit, vous voyez la surprise qu'on a pu avoir, c'est que d'habitude, on pourrait croire que les épreuves éliminatoires c'est pour éliminer les plus faibles, ben là en l'occurrence c'était Bertrand Camel et Dorian qui sont pas les plus faibles et qui sont retrouvés aux portes de l'élimination. Il y a des deux qui s'est fait éliminer, Dorian qui est pas passé loin du tout alors que c'est le mec qui est présenté comme le mec super fort depuis le départ. Donc je pense pas que la production va retirer cette épreuve, eux ça leur plaît, ça fait un bon moment d'émission. Et ça permet de rompre un peu de la monotonie de la réunification, parce que sans ça, bah, il n'y a que des conseils et des gens d'alliances minoritaires qui sont éliminés. Donc c'est leur seul moyen de mettre un petit peu de suspense. Ça fait un peu la loterie parfois, mais bon, ils n'ont pas autre chose, donc du coup, ils le garderont.
Il y a les binômes aussi qui peuvent permettre de redéfinir les alliances, la mécanique du jeu. Ils ont fait le double conseil dans l'épisode 4, ils peuvent pas en refaire leur réunification. Je sais pas, il peut pas faire, je sais pas moi, mettons 10 aventuriers, il y a 10 aventuriers, et tu en es 5 d'un côté, 5 de l'autre, il y a 2 conseils, un conseil chacun pour qu'ils éliminent une personne, ça fait 2 éliminés en un épisode, et ça fait une mécanique du jeu qui est bousculée. On peut faire plein de choses avec les votes, et non pas avec une épreuve éliminatoire qui est complètement aléatoire, qui est contraire au jeu, qui est aléatoire et qui permet de faire éliminer un gros perso. Ça, c'est pour moi, c'est pas juste, c'est encore pire que ça. Donc, il y a d'autres façons de redéfinir la mécanique du jeu.
Ben moi, je pense que justement, là, leur idée, c'est de varier justement ces mécaniques. Parce que ce que tu proposes, c'est des altérations au niveau de la manière de voter, de faire les conseils. Mais si on fait que ça, alors ça serait intéressant pour nous, ça serait intéressant. Mais pour la production, pour le grand public. Ben peut-être que je dirais, oui, c'est à chaque fois c'est une petite altération au niveau du conseil, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Oui, il y a deux éliminés au lieu d'un, peu importe la forme sous laquelle ça se fait, c'est deux éliminés au lieu d'un. Alors que épreuve éliminatoire, ben, ça permet de varier un petit peu. Quand moi je dis ça, je suis contre l'épreuve éliminatoire. Mais si je mets dans la logique de production, ben ils vont varier tous ces éléments-là. Quoi. Un coup c'est les ambassadeurs, un coup c'est une épreuve, un coup c'est un conseil avec une règle bizarre. Après, je sais pas s'ils auront encore d'autres idées à la con, mais voilà, c'est leur seule manière de faire du suspense. Il faut qu'il varie un petit peu, puis maintenant c'est un truc, c'est devenu un classique de Koh-Lanta, et on sait bien que Koh-Lanta n'aime pas remettre en question ses classiques. Donc voilà, je pense que pour ça, la production va le garder. Quoi.
Un classique tout de même récent, hein. Ça fait depuis 2016 hein, que c'est arrivé chaque saison. Sous des formes différentes, mais c'est depuis 2016 que c'est arrivé. Donc, je sais pas, c'est un classique, oui, mais récent. Ils peuvent pas bousculer ça, non? Je sais pas.
Après, le grand public, ils ont une mémoire assez courte. Hein, donc, eux, 4 ans, si ça fait 4 ans que ça se fait, pour eux, ça se fait comme ça depuis toujours.
Hein. Moi, je suis dans le sens, je pense que je suis pas trop d'accord avec vous, parce que pour moi, l'épreuve éliminatoire, elle fait partie du jeu, en fait. Genre, c'est un truc, ils sont au courant que ça peut arriver, en fait. Donc, je trouve pas ça. Juste de dire que c'est pas juste, justement. Dans le sens où il y en a toutes les saisons, donc en fait il faut le faire avec. En fait, c'est pour ça qu'en fait ils auraient dû garder des gens comme Carole, comme Estelle, parce que Estelle elle aurait perdu contre Dorian à cette épreuve. En fait, ils sont au courant, donc pourquoi il faut qu'ils composent avec au lieu de faire le mérite. Au bout d'un moment, c'est pas possible parce qu'il y a ces épreuves éliminatoires, il y a ces rebondissements qu'ils connaissent. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et même si c'est pas la même chose que le conseil habituel, je pense que c'est plus juste en fait. Ils le savent et tant pis pour eux s'ils sont nuls. Hein. Ils n'ont pas gardé des gens plus nuls qu'eux, ils sortent.
Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Clément. Parce que Fabrice, par exemple, c'est quand même pas un monstre de sport. Théoriquement, on aurait pu penser qu'il allait perdre. Et ce n'est pas forcément ça. Moi, ce que j'aime pas dans les épreuves éliminatoires, c'est quand on va au conseil, on a eu une immunité. Donc, on a eu du social, du sport, de la survie et de la stratégie pour éliminer quelqu'un. Et les épreuves éliminatoires, même les ambassadeurs, pour moi, il y a du social, il y a tout ça qui rentre en compte parce que c'est quand même des gens qui décident que d'autres gens partent. Ici, c'est complètement arbitraire. On a décidé que seul le sport, et c'est la seule donnée qu'on va prendre pour faire une élimination, et c'est contraire à l'esprit du jeu, à l'esprit de ce qu'on veut. J'entends ma
oui, mais ça fait des années qu'il y a, donc c'est en fait, c'est ancré dans le jeu. Faut arrêter de dire que juste parce que c'est du sport, c'est mauvais. Non, je suis pas d'accord. Mais moi, je suis pas un grand sportif. Là-bas, j'aurais conscience. En fait, c'est le jeu. En fait, c'est rentré dans le jeu depuis des années maintenant. Ils sont au courant, donc
c'est rentré dans l'émission. Je pense qu'il y a un problème de. Pour moi, ici, on s'entend pas sur les mots qu'on veut utiliser.
Mais
pour
ils rentrent dans Koh-Lanta, dans l'émission, dans le jeu, c'est pareil parce qu'ils savent qu'il y a ça. En fait, ils sont au courant.
Pas pour moi.
Ils sont au courant qu'il y a des épreuves éliminatoires. Ils le savent.
Oui, mais oui. Oui,
obligé de composer avec, en fait.
Ils ont gardé des joueurs plus nuls. Et ici, on a bien vu que c'est pas Fabrice qui était en danger. Ça n'a rien à voir, le nul.
Fabrice, c'est pas du tout le joueur le plus nul, en plus.
Le sportif, si, des hommes, c'est quand même le sportif qui est peut-être le moins en avant, en tout cas, qui aura le plus difficile.
Il a quand même fait pas mal d'épreuves. C'est parce qu'il n'est pas mis en avant là-dessus, en fait, parce qu'ils mettent les jeunes qui sont forts, et lui, c'est le pêcheur, tu vois, genre, mais...
Là, peut-être.
Je suis pas du tout d'accord avec toi en disant que c'est pas... L'épreuve éliminatoire, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est quelque chose qui est dans le jeu et qu'il faut composer avec dans tous les cas.
Ouais. Moi, sur quoi je venais, c'est que moi, j'aime bien quand les éliminations sont faites basées sur les différents aspects du jeu et pas sur un seul. Ou alors, on contrebalance, il y a une épreuve éliminatoire, mais il n'y a pas d'immunité et on vote quelqu'un sans immunité. Alors, à la limite, moi, la limite, je dirais, ok, tu compenses avec les deux. Mais ici, pour moi, c'est trop basé sur un seul principe pour que j'apprécie. Je comprends qu'il existe, je comprends que la prod l'ait mis, je comprends que le grand public l'aime, je comprends qu'on puisse considérer que ça fait partie de l'émission aujourd'hui, mais moi, dans mon point de vue personnel, je trouve que ça appauvrit le jeu plus que ça ne l'améliore.
Après, il y a une autre épreuve éliminatoire qui est là depuis la toute première saison, c'est l'épreuve d'orientation. Et pourtant, voilà, c'est quelque chose avec lequel les candidats ont appris à composer aussi. Donc après, voilà, je suis d'accord qu'effectivement, les épreuves éliminatoires, ça met le jeu dans une direction que nous, on n'aime pas. C'est-à-dire, du coup, ça défavorise les candidats qui sont faibles sportivement. Et aussi, ça oblige les candidats à mettre en place des stratégies qui, en plus, vont même à l'encontre de cette notion de mérite qui est mise sans arrêt en avant par la prod. C'est-à-dire que si on veut se protéger à l'épreuve éliminatoire, faut préserver les plus faibles. Bon, ce n'est pas ce qu'ils ont fait cette saison-là. Et je crois que dans les saisons précédentes, il y a toujours un petit peu cette idée qui était un petit peu sous-jacente. Mais qu'en gros, voilà, si on veut être intelligent face à ces épreuves éliminatoires, il faudrait préserver les plus faibles et ça nous donnerait encore plus de prétextes pour éliminer les plus forts. Qui pour moi n'est pas.
Mais genre Marie-France, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été qualifiée sur cette épreuve, tu vois. Genre...
Non, je sais pas, Marie-France, c'est pas celle que j'aurais le plus sous-estimée.
En vrai,
mais effectivement, par contre, c'est possible, effectivement.
Mais oui, juste la dernière éliminée qui aurait pu perdre, je pense, c'était Marie-France. Parce que je pense qu'elle a déjà clairement, je pense qu'elle aurait clairement pu gagner l'épreuve en plus. C'est le rembourrage et tout, elle est en balleuse.
En tout cas, sinon, c'est vrai que par rapport aux arguments qui ont été avancés jusqu'à maintenant, c'est vrai que maintenant, les candidats savent que ça existe et c'est eux d'adapter leur stratégie à ça. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on pense que c'est juste ou que c'est pas juste, quand on est dedans, il y a une manière intelligente de composer avec et des manières idiotes de composer avec. Et effectivement, virer les plus faibles. Tant que l'épreuve éliminatoire n'a pas eu lieu, c'est idiot.
Oui, forcément. Mais ça, je suis plutôt d'accord. Mais c'est pas pour autant que j'aurais été dans ce sens-là à la place de la prod. Mais forcément, les joueurs doivent composer avec ça, oui. Ça, c'est certain.
Après, c'est le souci aussi, c'est que c'est vrai que nous, on est une catégorie de fans un petit peu particulière. C'est vrai que si on veut que le jeu soit vraiment à notre image, ben c'est pas dans Koh Lanta qu'on le regarde, c'est dans les ORG, quoi. Donc c'est vrai que là on est dans une autre idée, quoi. Mais c'est
dans la première saison.
Comment?
Dans les premières saisons de Koh Lanta.
Oui, même plutôt Survivor, honnêtement. Mais bon, après là, c'est encore un autre débat.
Alors, vous avez bien discuté, vous êtes bien pris la tête là-dessus, c'était très intéressant. Et du coup, donc le résultat des conseils, c'est que Joaquina se fait éliminer par 7 voix contre 5 et une voix complètement dans le vide contre Alexandra de la part de Brice qui voulait absolument qu'on dise avoir une tribu blanche. Alors ça, c'est une question que je voulais vous poser. Cette espèce de truc de la tribu blanche, ça n'a aucun intérêt pour personne. C'est un vœu pieux, c'est fait pour se rassurer. Mais pourtant, c'était quelque chose qui était un petit peu laissé de côté les précédentes saisons. Mais là, on y revient. Pourquoi, d'après vous, il y a toujours ce besoin de dire « on est une tribu blanche, les couleurs n'existent pas », alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas et que les relations précédentes du début du jeu, elles existent, elles sont là. Mais pourquoi, justement, ne pas vouloir l'assumer, justement. D'ailleurs, Joaquina, avant de sortir, l'avait très bien dit, il n'y a pas de tribu blanche, ça n'existe pas. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez, ça, de cette envie de vouloir ramener ça, de vouloir dire qu'il y a une tribu blanche, alors qu'on sait très bien que personne ne prend ça au sérieux. Je vais demander à Wilson.
Alors, déjà, la prod, et même la prod de l'émission, elle n'a pas forcément envie d'une tribu blanche, parce qu'à part ce drapeau, tout le monde garde son bandeau. Je veux dire, c'est pas difficile d'avoir un bandeau blanc. Donc, je suis pas sûr que ce soit dans l'intention du jeu ou de l'émission d'avoir forcément une tribu blanche. Par contre, Brice est demandeur de ça, apparemment. Mais les joueurs, ils continuent à jouer et ils l'assument. On joue jaune contre rouge. Ça a été comme ça les dernières saisons. Donc, je pense que c'est juste une espèce de débat interne dans le jeu. Ceux qui veulent une tribu blanche, c'est ceux qui sont pas bien placés dans leur équipe. Point à la ligne. C'est encore une fois une décision stratégique. Brice sait qu'il n'est pas dans le top de son... Enfin, déjà, il voit que les rouges sont en train d'être éliminés. Il regarde, il fait « Oh, ça va arriver, là ?» Il a perdu Marie-France. Derrière, il sait qu'il est un joueur « dangereux », entre guillemets, sportif. Donc, les sportifs en face vont, à un moment donné, vouloir l'éliminer s'ils vont, ils veulent rester qu'entre jaunes. Donc, je pense que c'est plus une intention stratégique qu'à proprement dire une véritable intention du jeu d'avoir une tribu blanche, là, c'est à mon avis.
Boubac.
C'est plus une posture morale, à mon avis. C'est plus une posture morale pour se dire que chaque action de vote est placée sous une morale particulière. Évidemment, le vote, la tribu blanche n'a absolument aucun sens. Joaquina l'a dit. Alors, c'était pas la bonne solution de le dire au conseil, ça t'enterre un peu plus et ça te crée des inimitiés et des votes contre toi. Mais c'était très bien dit de sa part, et évidemment que non, il n'y a pas de tribu blanche et que ça n'existe pas. Je pense plus que c'est un devoir moral qu'autre chose. C'est pour voter. Ça leur permet de voter et que leur vote ait un sens, pas qu'au niveau du jeu, mais au niveau moral. Alors, je sais pas où ils le voient, mais bon, apparemment. C'est comme ça.
Madar.
Pour moi, l'idée de la tribu blanche, on est quand même plus dans le registre de l'incantation. C'est-à-dire qu'on veut croire à cette tribu blanche parce que ça nous arrangerait bien pour le coup. Surtout que quand on fait partie de ceux qui s'impliquent sur Kang, qui sont pas mauvais dans les épreuves, qui sont assez sympas avec les autres, c'est vrai que si on oublie les stratégies, si on oublie les alliances, ça nous arrange bien. Parce que du coup, si on se place pas bien dans les alliances, on voudrait bien que les alliances n'existent plus. Et si on veut voter au mérite, ça nous arrange, puisqu'on se voit soi-même dans les plus méritants. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Après, bon, après tribu blanche, c'est peut-être un peu aussi l'occasion de montrer pas de blanche. C'est-à-dire que quand t'es avec la minorité, et tu sais que t'es avec la minorité, t'as peut-être pas envie de voter avec la minorité. Et vu que tu veux pas non plus voter contre tes anciens alliés, du coup tu votes un peu dans le vide en te disant, voilà, je suis gentil, faut pas m'éliminer, quoi. J'ai pas voté avec la minorité, donc je suis pas contre vous. Donc je pense qu'il y a un peu ça aussi. C'est peut-être une manière de se sortir de l'alliance minoritaire pour ne pas s'attirer les foudres de l'alliance majoritaire. Il y a des moments où ça peut marcher. Je sais pas si ce sera le cas pour cette saison, mais il y a des moments où ça peut marcher. Après, sinon, c'est peut-être un peu aussi une question de déni. Quand t'es en difficulté, le fait de croire à cette tribu blanche, c'est un peu une manière, voilà, c'est tu refuses des stratégies, tu refuses des alliances, et t'es un peu dans le déni du jeu parce que tu te rends compte que le jeu t'échappe un petit peu, quoi. Effectivement, qu'il y a ce besoin de posture morale aussi, ça permet un peu de faire la morale aux autres. Vous voyez, moi, je suis au-dessus de ça, je suis au-dessus des alliances. Je suis au-dessus des alliances, du coup, moi, je vais pas suivre dans les alliances parce que, moralement, je suis quelqu'un de pur, quoi. Et puis, sinon, bah, après, il faut pas exclure, ça puisse être simplement une incompréhension du jeu. Alors, bon, on est quand même à la 22e saison régulière de Koh-Lanta, bon, c'est... Enfin, 22e, non, 20e, puisqu'il y en a deux qui ont été sortis, mais... ça fait quand même beaucoup de saisons de Koh-Lanta, je pense que les gens connaissent le jeu sans forcément le comprendre complètement. Mais on peut pas exclure que certains candidats soient cons, quoi. Alors, je pense pas que ce soit le cas de Brice, quand même. Mais il y a des candidats parfois qui sont teubés, quoi, qui pensent vraiment que, qu'une fois qu'il y a la réunification, ben, il y a plus d'alliance, il y a plus de couleurs, il y a plus rien, et que, et qu'on est dans le monde des bisounours, quoi. Mais bon, voilà, c'est ce genre de choses qui peut arriver encore parfois.
Et enfin, Clément?
Ben, moi, je pense que la tribu blanche, en fait, c'est un peu ce qui est mis en avant, comme là, par la prod, c'est un peu les légendes de la prod, genre en mode, il faut trouver un capitaine dans l'équipe, il faut avoir une tribu blanche, il faut aller chercher du poisson, si tu veux pas chercher du poisson, bah, t'es éliminé, tu vois. J'ai vraiment l'impression, c'est vraiment, en fait, c'est en fait, les candidats, eux, ne parlent pas de tribu blanche, en fait, comme les candidats ne vont pas parler de capitaine, c'est la prod qui leur en mode, allez, c'est alors la tribu blanche, alors, allez, votre capitaine. Non, en fait, les candidats s'en foutent, en fait, surtout que, comme l'a dit avant, ils ont des foulards jaunes et rouges. Comment tu peux avoir. De se dire, t'as une tribu blanche alors que t'as des foulards jaunes et rouges, en fait. Et alors que, dans, par exemple, dans Survivant, on va y revenir, on y revient tout le temps, ils ont en fait un nouveau foulard. Donc, déjà, même ça apporte plus un aspect à une nouvelle équipe parce qu'on a tous le même foulard. Et voilà, c'est vraiment pour moi aussi que je suis d'accord avec tout le monde, c'est un peu la légende de la tribu blanche. Il y aura toujours ces liens, enfin, forcément, tu passes 20 jours avec quelqu'un dans la même équipe, forcément, t'es plus proche de lui que quelqu'un que t'as vu 3 jours, et forcément, t'as plus envie de voter pour quelqu'un que t'as vu 3 jours que 20 jours, tu vois. C'est logique, au final. Alors que, du coup, la tribu blanche, pour moi, c'est quelque chose d'à peu près illogique. Surtout que, comme ça avait été dit dans les commentaires, c'est une aventure individuelle, donc c'est plus une tribu.
Donc, dans le chat, les gens sont plutôt d'accord avec ce que vous dites, puisque Konoha dit « Pour moi, on ne devrait même pas parler de tribu blanche, ça n'a pas de sens, l'aventure est individuelle en post-réunification. » Nasma qui dit « La tribu blanche, c'est l'apogée de la religion du mélite. » Ah bah ça, oui, forcément. Ensuite, Diego Nasma dit « C'est le monde des bisounours où on vote par ordre alphabétique. » Et Wilson, toi, tu dis « Si la prod voulait une tribu blanche, pourquoi il ne change pas les foulards ?» Donc vraiment, il y a ce côté vœu pieux, comme on dit, c'est-à-dire que quand le jeu nous échappe, eh bien, il ne nous reste plus que les postures morales. Et ça, c'est vrai qu'en France et dans Koh-Lanta en particulier, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les postures morales. Du coup, je vous propose que l'on passe à une analyse vraiment par candidat, puisqu'on a eu des candidats qui se sont quand même davantage révélés. La semaine dernière, c'était plutôt Dorian et Alix, qu'on a quand même assez peu vu sur cet épisode. Mais là, l'épisode tournait beaucoup autour du duo Lola-Angélique. Une espèce de duo fort comme ça chez les jaunes, qui sont pas forcément les plus actifs sur le camp à entendre tous les autres, mais qui s'auto-protègent, puisque Angélique a l'immunité, et Lola a trouvé son deuxième collier juste avant le conseil. Pour vous, justement, ce duo Angélique-Lola, quelle peut être son importance stratégique pour la suite du jeu, Wilson?
Alors, moi je pense que, déjà... excellent épisode autour de Lola et Angélique, notamment Lola qui commence avant l'épreuve, vu qu'elle a gagné l'épreuve de confort, et Angélique, du coup, qui en gagnant l'épreuve d'immunité, se montre, et plus que ça, décide de faire pencher des votes d'un côté plutôt que de l'autre. C'est elle qui vient trouver Alix à la plage en lui parlant de Joaquina, justement juste après avoir parlé à Lola, Lola qui se sent en danger et visée justement par le groupe de Joaquina, parce que justement, il ne pouvait pas voter Angélique. C'est à partir de là que tout l'épisode va se jouer, avec un Fabrice au milieu, avec Alix Dorian de l'autre, et où Angélique et Lola vont faire leur petite soupe pour pouvoir décider de qui va partir. Et ce choix est très très intelligent de leur part, parce qu'ils vont vraiment affaiblir peut-être la personne qui avait le plus de liens entre les deux tribus rouge et jaune encore en face, et tout en renforçant la fidélité entre guillemets d'un Fabrice. Angélique m'a vraiment surprise sur cet épisode, on la voyait pas trop, à part quand Laurent s'en plaignait pour un manque d'implication dans le camp. Et ici, on la voit vraiment parler, décider, dire « Fabrice, je sais comment le on va dire driver, je ne sais pas ce mot, je vais aller lui parler et lui souffler à l'oreille. » On a eu son portrait, on a eu beaucoup de portraits, c'était l'épisode des portraits aujourd'hui, j'ai l'impression.
L'épisode des portraits du Nord.
Oui, en plus, on a eu Fabrice, Lola et Angélique. Et un portrait très, très intéressant. Je ne suis pas forcément fan des portraits, mais le portrait intéressant avec une histoire particulière et surtout avec, où elle met en avant ses qualités pour le jeu, où elle dit « je sais m'intégrer dans un groupe et je, sais, je connais mes qualités ». Ou Lola à côté qui dit « je viens pour gagner ». J'aime beaucoup ce genre de discours. Hein, « je viens pas pour l'aventure humaine, je viens pour gagner », Lola a dit, alors que ce n'est pas forcément une personne qu'on... qu'on attend dans ce genre de position, vu qu'elle n'est pas sportive, méritante, etc., même si elle se débrouille très très bien en épreuve. Et donc, c'est un épisode où elles ont été clairement les maîtres à bord, à voir si ça ne se retournera pas contre elles plus tard, parce qu'elles prennent un peu de place et un peu de cible entre l'immunité, l'écolier et l'écolier de Lola, mais où, en tout cas, elles ont fait un peu bouger le jeu, et c'était très plaisant à voir.
Clément ?
Moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que Angélique a eu l'immunité. Elle n'a pas fait comme plein de gens qui vont dire « Moi, j'ai l'immunité, je m'en fiche du conseil, allez hop, 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 c'est parti, je peux faire dodo. » Non, elle a utilisé l'immunité pour se mettre en avant stratégiquement. Elle a utilisé l'immunité pour dire « Bah, maintenant, j'ai l'immunité, je suis sûr de ne pas sortir. Si j'indique des noms, on ne pourra pas se venger contre moi. » Elle a vraiment utilisé cette immunité plus comme une arme stratégique qu'au final, que comme juste une protection. Et du coup, pour le duo Lola Angélique, moi, je suis très content, donc forcément, c'est l'équipe du Nord, allez, c'est parti. Mais... et du coup moi je suis très content d'avoir en fait on voit enfin des personnages on voit enfin le Nord pas comme que les clichés qu'ils avaient mis genre la vieille bouchère du Nord et le gros bof du Nord Fabrice enfin, on voit enfin vraiment le Nord d'une autre facette d'une facette un peu plus stratégique et d'une facette en fait ils sont là ils sont encore présents on voit plus trop les verts là on a vraiment vu les trois portraits du Nord du coup l'équipe du Nord qui s'est mise en avant et c'est super.
Alors ensuite on va passer Alors, allié, qui est Fabrice. Fabrice, dont on a eu le portrait, donc Fabrice qui visiblement n'a aucune idée du salaire qu'il touche, qui se retrouve avec ses amis au baby-foot, avec un petit écriteau avec marqué Place des Fêtards. Donc, voilà, le personnage un peu bon vivant de ce Koh-Lanta. Mais, stratégiquement, il était ballotté entre deux, c'est-à-dire sa loyauté aux deux femmes du Nord et aussi à Joaquina, et on le voit hésiter tout du long sur la marche à adopter, puis il finit finalement par voter Joaquina. Alors, Fabrice, justement, ce que je voulais vous demander, vu est-ce que son indécision va faire en sorte qu'il ira beaucoup plus loin, parce qu'on ne le considérera pas comme un danger, du coup, je vais poser la question à Boubac.
Sur Fabrice, je pense que c'est le personnage type Eric Mindero. C'est vrai que son indécision était assez intéressante à voir sur l'épisode. Est-ce que son indécision va lui permettre d'aller loin? On verra déjà dans les prochains épisodes, mais il a l'air d'être plus dans le camp de Lola et Angélique, ce qui me fait dire que les deux ont toutes les cartes en main pour aller très très loin. Vu que vous m'avez pas demandé mon avis sur Lola et Angélique, je le dis. Lola et Angie, elles ont toutes les cartes en main pour aller loin. Donc sur Fabrice, effectivement, je pense pas que cette option de vote important ou de vote capital pour l'élimination de Joaquina va lui faire avancer dans le jeu. Je sais pas quand il va se faire éliminer, ou en tout cas, j'imagine pas quand il va se faire éliminer, mais... Non, je vois vraiment pas ce qu'il peut faire de plus, à part suivre Lola et Angélique. Je vois vraiment pas ce qu'il peut faire de plus. Voilà.
Alors Wilson, toi tu dis dans le chat que tu penses qu'il n'était pas si indécis que ça.
Je pense qu'il n'était pas indécis sur son vote, il n'était pas indécis sur avec qui il voulait jouer. Il était indécis sur « est-ce que Joaquina veut vraiment me voter ?» Mais quand il dit « tu as voulu voter Lola, je te vote Joaquina », il a une préférence qui date pas de la dernière minute du conseil. Elle date de « Lola et Angélique sont mes vrais alliés. Joaquina était avec moi chez les rouges, mais si tu attaques à mes alliés qui sont chez les jaunes, je t'attaque. » Bon, en tout cas, c'est sa justification de vote semblait un peu portée là-dessus. C'est ce que Mar dit aussi dans le chat.
Et ensuite, Madar, qu'on n'a pas encore entendu.
Fabrice, stratégiquement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de lui, parce que... Moi, je me souviens à l'épisode 7, quand il était question que Sébastien vote peut-être contre lui, Fabrice, sa réaction, c'était « bon, on verra bien ». Donc, ouais, je veux dire « oh, on va voter contre toi, bon, on verra bien », voilà, c'est « oh, je sais pas combien je touche, combien je touche comme salaire », bon, ça veut dire qu'il touche trop, mais bon. Non, après, ouais, est-ce qu'il va se faire un petit peu utiliser entre guillemets par Angélique et Lola pendant un temps? Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de l'amener avec elle et tout ça. Après, il peut aussi décider de ne plus voter avec elle du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui risque d'être assez imprévisible. Alors, est-ce que ça va le mener loin? Ben, dans l'absolu, non, pas spécialement, puisque disons s'il va loin, ça sera pas pour ça. Après, est-ce qu'il risque d'être vu comme un fusible? Ça, par contre, oui. Ça, c'est vraiment. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui sert de dommage collatéral pour les binômes parce qu'il est allié, il est en binôme avec quelqu'un de dangereux, ben, je pense que les gens n'auront pas trop de scrupules à le faire partir. Après, moi, je pense que ce serait pas très prudent de l'emmener jusqu'à l'orientation parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui peut très bien celui-ci jusqu'en finale et qui dit qu'il ne peut pas gagner derrière. Alors, je pense pas qu'il va gagner, mais bon, c'est pas quelqu'un que j'aurais envie d'avoir face à moi en finale, en tout cas.
Et alors sur le chat, Wilson qui dit que c'est un numéro 3 fidèle, que Mika dit que ça va être le numéro 3 de Lola et Angélique, et que c'est vrai que c'est un trio qui va avoir beaucoup d'impact dans le jeu, puisqu'ils sont dans l'alliance majoritaire, celle des anciens jaunes, qui sont 3, et que Lola a 2 colliers. Donc c'est vrai que pour Lola, ça se présente extrêmement bien. Ensuite, moi, je voulais passer à plusieurs autres.
Je vais rajouter.
Vas-y, oui, tu voulais dire ?
Sur le trio, c'est déjà un trio qui est sûr et solide et qui risquera pas d'éclater. En tout cas, je pense. C'est un trio sûr, solide, qui peut aller très très loin et qui a toutes les ressources stratégiques, physiques, mentales pour aller loin. Voilà. Il faudra compter sur.
Donc, parmi les anciens jaunes, il y a aussi une qu'on n'avait pas vue depuis 2-3 épisodes qui avait une image assez détestable dans l'équipe orange. C'est jeudi. Et c'est jeudi qu'on voit avoir des discussions un petit peu stratégiques aussi. Et je crois savoir que Clément, toi, tu as envie de défendre jeudi.
Bah, j'ai essayé de la défendre comme j'ai essayé. Je voulais la défendre comme j'ai défendu Alexandre l'année dernière, mais je n'ai pas trouvé grand-chose à dire. Moi, je trouve que jeudi, on lui a un peu donné l'image de la mauvaise, un peu comme. Alexandra l'année dernière, pour justifier Estelle, en fait, je pense qu'elle a. Il y a eu le vote de Diane, on a donné, pour qu'Estelle soit un peu Léorine, tu utilises le collier, on donne le mauvais rôle à Jodie. Sauf que Jodie, au final, elle ne s'est jamais faite éliminer en équipe. Après, elle s'est faite sauver lors de des jaunes contre Aubin, qui était quelqu'un de très sympathique. Donc, je pense qu'elle a quand même des qualités qu'on ne montre pas, qui ne se font pas montrer. Oui, qu'elles ne sont pas montrées. Et sportivement, elle n'est pas mauvaise, en fait. Là, on la voit sur. L'épreuve de la balance, je crois, où elle tient quand même bien tête à Alexandra, qui c'est la dernière qui est contre Alexandra. Au truc des balanciers, elle passe devant plusieurs personnes aussi. Donc je pense que Jodie, c'est un peu le personnage qui est bon, on a dû lui donner une image mauvaise pour justifier un autre personnage, et maintenant, bah, elle servait que à ça, elle ne sert plus à rien maintenant. Sa storyline, c'était juste ça, je viens en Diane, et après je ne sers plus à rien. Et c'est dommage, je trouve, parce que là, elle a été quand même parlé stratégiquement avec Joaquina, par exemple. Donc il y a quand même, je pense, d'autres choses à raconter sur Jodie.
Madar. Ben, Jodie, j'en pense pas grand-chose non plus. Alors moi, ce que je vois, c'est que depuis le départ, elle se passe plutôt bien quand même dans les alliances. C'est-à-dire que depuis... avant le dernier épisode, elle était tout le temps avec la majorité. Donc ça veut dire qu'au moins, elle a cette capacité à bien lire le jeu pour savoir où se trouve la majorité. Donc, et c'est vrai que là, elle a changé d'alliance. Alors, quelles sont les véritables raisons, ça, ben, on pourra voir un petit peu sur la durée. Après, c'est vrai que le fait qu'on la voit aussi peu, moi, ça me rend pas du tout optimiste sur la suite de son parcours. Sauf si elle se révèle vraiment. Parce qu'après tout, c'est vrai qu'on a vu des candidats qui se révélaient à l'épisode 10. Parce que, je veux dire, le montage de Colanta est pas toujours très, très intelligent là-dessus. Mais le fait qu'on la voit aussi peu, que le peu qu'on la voit, c'était de manière un peu négative, ça me donne l'impression qu'elle va être éliminée de manière un petit peu random, c'est-à-dire un petit peu OSEF, soit par les binômes après avec quelqu'un d'autre de plus intéressant, soit peut-être à la rigueur à l'orientation, parce qu'ils peuvent très bien éliminer deux personnes dans l'orientation, dont un qui est pas très important. C'est parce que j'imagine pas trop qu'un conseil puisse lui être consacré.
Après, Jodie, tout au début, il y a quand même quelques certains moments positifs sur elle. Genre, quand il y a eu le fight Estelle, le premier, avant que Diane soit éliminée, c'était la seule qu'on voyait encourager Estelle dans les épreuves. Elle était très douce, mais après, elle s'est devenue un peu un démon. Et dans la toute première épreuve, il me semble que c'était une des dernières femmes à être en jeu, et ça a été noté aussi, des trucs comme ça. Donc, il y a eu un tout petit peu de positif, plein de négatifs, et maintenant, ça ne sert à rien.
Oui, mais après, je pense aussi que c'est peut-être, comme disait tout à l'heure, c'est
Donc après, peut-être qu'elle va faire comme Ludivine, gagner une épreuve, voir à la limite une deuxième, une immunité, un confort, et se faire éliminer. Quoi.
Après, par contre, l'histoire avec le quoi. Ça, par contre, là, ce que tu viens de dire, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a vu aussi Tikaïda qui n'était pas trop mis en avant, et qu'à partir du moment où il remporte une épreuve de confort, là, c'est l'occasion de complètement redécouvrir le candidat. Et c'est vrai que si la probe, bah forcément.
Ouais, Ludivine, par exemple, quand elle avait gagné le confort avec sa mère, par exemple.
C'est ça. Et du coup, bah ça se trouve, voilà, je veux dire, ceux qui font le montage, ils savent qui gagne les épreuves de confort. Ça se trouve, au prochain épisode ou au suivant, elle va remporter une épreuve de confort. Et ça va contribuer à la mettre vachement en avant en vue du prochain conseil. Je veux dire, imagine, à l'épisode des binômes, c'est son binôme qui remporte le confort. Là, au niveau dynamique, on peut montrer énormément de choses et complètement relancer le jeu au niveau du montage. Donc, parce que ça se trouve, au binôme, le jeu va être complètement retourné. Et que ça va savoir, peut-être que Jody sera instrumental dans son retournement. Bon, là, j'imagine, là, ce jeu fantasme complètement, bien sûr, mais. Ce que je veux dire, c'est que Jody, on l'a pas trop vu, peut-être parce qu'il n'y a pas trop de choses à montrer jusqu'à maintenant. Ça se trouve, c'est juste qu'elle mène bien sa barque et que c'est pas forcément très télégénique. Mais voilà. À voir. Je pense qu'on peut s'attendre à peu près à tout ou à rien avec elle.
Alors, ensuite. Donc, puisque c'est les 4 ou 5 personnes qui étaient les plus visibles un peu de l'épisode, hors Joaquina, donc l'éliminé, je vous propose qu'on passe un petit peu à des personnages qui sont un peu plus middle, on va dire. Il s'agisse plutôt de Loïc, de Brice, de Laurent et Alexandre. Bon, Laurent, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je voulais faire un focus vraiment sur Loïc, parce que Loïc, on a l'impression que c'est le gentil garçon qui veut pas se mouiller. Là, on voyait des gens qui disaient que le vote contre Alexandra, que ça aurait pu être lui parce qu'il ne veut pas trop se mouiller, mais il semblerait que non. Loïc, alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais aborder avec vous. C'est comment on peut jouer quand vous avez quelqu'un qui a une bonne place, qui est appréciable et qui visiblement n'a pas envie de jouer, en fait, qui lui n'est pas dans ce truc-là, qui veut vraiment faire le moins de mal possible et du coup qui va toujours ou voter à côté. Ou alors ne pas se mettre dans les stratégies. C'est comment on joue avec un personnage aussi appréciable, mais qui a tendance un petit peu à rendre le jeu statique. Ça, je vais demander à Wilson.
Alors, moi, je vais juste prendre le moment de l'épisode où Laurent lui dit « On vote qui ?» Et il fait « Bon, moi j'ai dit que je ne votais pas Alex, je ne vote pas Fabrice, je ne vote pas X, je ne vote pas Y. » Il était à deux doigts de dire tout le cast. Bah, « Vote-toi toi-même à un moment donné. » Si tu veux pas voter les gens. Moi, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds parce que les gens veulent jouer. Et lui, il a décidé, ouais, non, je vote pas. Je suis un spectateur dans le jeu et c'est impossible à jouer avec. Et moi, on a beau apprécier, il est gentil. Moi, il me saoule tout le temps qu'il apparaît sur l'écran. Voilà.
Heureusement qu'il est sympa.
Il est mou. C'est le gentil mou, en fait. Genre, c'est sympa d'avoir un pote comme ça, mais c'est pas sympa à regarder, en fait.
Sur le jeu, c'est pas possible.
Il est mou, quoi. Genre, c'est vraiment... Le mou, t'as envie de le secouer comme un bananier. Laissez mes expressions tranquilles.
C'est secouer comme un cocotier, normal. Bon, mais bon.
C'est un bananier. C'est un bananier moi. Dans le Nord, il y a des bananiers, donc on secoue les bananiers.
Oui, bah Laurent, heureusement qu'il est sympa quand même. Loïc, pardon, heureusement qu'il est sympa quand même, sinon, sinon on ne le supporterait pas trop, mais effectivement, c'est très très dur de jouer avec un joueur comme Loïc, absolument, comme Loïc. Même Laurent, des fois, on a un peu marre, ou en tout cas, est un peu stupéfait par la débilité, mais disons par son côté crédulité. Oui, effectivement, c'est difficile à jouer. Et par exemple, Adja l'a payé hein, et avait raison. C'est compliqué d'avoir non seulement compliqué de jouer avec lui, mais imagine-toi aux ambassadeurs, c'est encore pire. Et le pire, c'est que je crois qu'il peut aller loin avec comme ça hein, parce qu'il est dans une alliance sécure majoritaire.
Mais plus maintenant en fait, parce qu'il a voté Lola, est-ce que ça va pas se retourner contre lui? Comme je vous dis, potentiellement, quoi. Est-ce que lui, il va pas se faire... Lola et Angélique, elles vont pas dire, bah lui, il a voté contre nous, allez hop, c'est le prochain.
Ça serait peut-être...
Parce qu'il est dans les épreuves, et en plus, il a voté contre Lola. Donc, si... Moi, je sens bien que le prochain épisode, c'est Angélique qui se fait voter, qu'elle se idole ou quelqu'un. Pour moi, c'est mon pronostic, c'est ça. C'est que Lola donne un collier à Angélique, et Angélique idole ou quelqu'un. Est-ce que ça serait pas Loïc, en fait? Est-ce que ça serait pas Loïc, au final, il... À force d'être au milieu, on se dit, bah, de toute façon, il était quoi avec Joaquina? Autant le sortir. En plus, il est dangereux dans les épreuves.
Ça serait le bon move à faire. Hein.
Non, parce que si tu sortir Loïc, c'est quand même sortir quelqu'un qui est apprécié. Donc c'est quand même socialement pas un move de ouf, je pense. C'est pas vraiment
la chose à faire. Mais c'est un move à faire, oui. Quand même, en fait. Il faut sortir avant le.
Mais si tu le fais.
Si
tu le fais, c'est peut-être un peu tôt et peut-être que tu vas te mettre. On est au 11 dernier. Tu vas te mettre. T'as encore pas mal de conseils. Mmh. C'est pas forcément nécessaire de se mettre une cible si tôt. Mais oui, après, c'est
un choix. Mais je pense pas forcément tout de suite.
Hein, peut-être un Laurent. Moi, je pense qu'un Laurent.
Il sera visé parce qu'il a fait
Laurent, ça. C'est plus intéressant. Il est beaucoup plus à l'opposé d'Angélique et Lola.
Mais il a voté avec elle, en fait. C'est ça le truc. Alors que Louis, non.
Certes, mais. C'est une question juste pour les gens, enfin, ou alors je reverrai un rouge comme Brice ou voilà ou jeudi. Loïc est trop apprécié à mon avis.
Mais après, il est apprécié par qui au final, parce que tous les barrés sont sortis. Hein.
Ouais.
Tout le monde doit commencer à s'en ficher un peu.
Possible. Hein. On verra ce que donne. Ouais.
Mais Loïc, c'est vrai, c'était le gros duo de Bertrand Camel. Bertrand Camel est sorti, Joaquina est sorti, il reste Laurent. Et Laurent, en fait, tout le monde s'en fiche. Va commencer à s'en ficher de son avis aussi.
Ouais, ouais, bien sûr. Bah oui. Bah...
Ils ont plus ce poids qu'ils avaient avant, en fait. Loïc, il a plus cette protection qu'il avait avant, je trouve.
C'est fort possible, ça, par contre. Oui, c'est fort possible. Même si, moi, j'ai l'impression qu'Alix et Dorian... Enfin, il y a ce trio-là, Dorian, Laurent... Laurent Loïc, qu'on a vu dans l'épisode. Je sais pas à quel point il est réel, mais on l'a vu dans l'épisode quand il cherchait du bois, et Laurent dit beaucoup, oui... En plus, il dit qu'il il a voté pour préserver son alliance, Laurent. Donc, pas Loïc, du coup. C'est ça qui serait intéressant à voir.
Du coup, ouais, parce que Loïc n'a pas... Mais la question, c'est que Alix, elle est très proche des femmes aussi. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Mais Alix, elle est très proche d'Angélique et Lola. On le voit à chaque épisode. Elle parle toujours strat ensemble.
En fait, je pense que c'est Alix qui est entre les deux, limite. Entre le trio du Nord et le trio des garçons.
Et en fait, je pense que en fait, ça peut très bien être plein de femmes en finale avec ce duo du Nord. Alix qui suit. Alexandra qui est aussi très proche des femmes de son équipe. Est-ce qu'au final, Loïc, Laurent et Dorian ne seraient pas les dindons de la farce bientôt?
En tout cas, c'est eux qui ont plus perdu sur les dernières éliminations.
Alors du coup, je propose qu'on passe tout de suite à deux candidats. Bon, il y en a un dont on a parlé un peu tout à l'heure, c'est Brice, avec son objectif de voter toujours blanc. Et Alexandra, dont on ne sait pas trop aussi comme ça où elle se situe. Donc pour commencer par Brice, il est ami avec Dorian, mais... ça peut être une élimination. C'est un des plus sportifs des anciens rouges et on sent qu'il peut être visé assez rapidement. Est-ce que vous le voyez vous en sortir peut-être par ses relations ou est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez éliminé dans deux ou trois conseils? Du coup, Madar.
Ouais, ben bonne question. C'est vrai que pour faire lien un petit peu avec Loïc, c'est vrai qu'on est avec deux candidats qui sont un peu dans le refus du jeu, refus vraiment des conseils et tout ça. Et ce genre de stratégie, bon, ça peut permettre de temporiser un petit peu, mais tu ne tiendras pas très longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu votes blanc, si tu refuses de te mettre dans les alliances, au bout d'un moment, les alliances, elles te rattraperont quand même. Et c'est vrai qu'on est toujours sur cette idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la tribu blanche. C'est un peu, c'est de l'incantation, ça t'arrangerait bien de pas avoir ces alliances, mais ces alliances, elles seront là que tu le veuilles ou pas. Donc après, est-ce que Brice, du coup, il va pouvoir aller loin avec sa posture? Non, je pense pas. S'il va loin, ça sera pour d'autres raisons.
La question, c'est qui entre Ava et Brice sera le prochain visé si ça continue au jaune et rouge, quoi. C'est soit lui, soit Ava, parce que Fabrice, non, il sera pas visé, en fait.
Bah, par défaut, ce sera plus dangereux des deux. Hein.
Ouais, c'est...
Et Brice, c'est carrément, il va se retrouver avec Alix et Dorian qui vont quand même voter contre lui, il va pas comprendre, ou alors il va dire « Ah, bah, ça veut dire que c'était mon tour, bah tant pis, machin. » Donc non, là, donc, je pense... Saucy se révèle, mais bon, franchement, Brice, c'est pas le genre de candidat que je vois se révéler sur les conseils. C'est le mec qui arrive en disant « Ouais, mon bon point fort, ça sera les épreuves. » Oui, tu parles comme 90% du casting. Donc, mon avis, Brice, limite, j'ai presque envie de croire que son jeu est déjà fini, en fait. Mm. Que là, il est en sursis, parce que, de toute façon, si tu refuses de jouer à un moment, ben, le jeu se fera sans toi, quoi.
Bah, ce qui expliquerait, en fait, ce gros montage massage-douche, en fait. C'est un peu... Au revoir. Tu as tes 5 minutes, tu vas partir. Oui, non, mais voilà. Donc Brice, je pense que oui, Brice arrive au bout de ce qu'il pouvait faire. Il a gagné son épreuve, il va rentrer content. Voilà, je pense que ça ira pas beaucoup plus loin.
Ouais, c'est ça, Combien de temps vas-tu durer, monsieur, en fait?
Après, je pense que le problème de certains candidats, c'est que certains sont pas venus pour gagner, en fait. Enfin, disons, s'ils arrivent loin, tant mieux pour eux. Et qui sont un peu dans l'idée, oh c'est bon, j'ai fait mon Koh-Lanta, je suis arrivé jusqu'à la réunification, et puis
j'ai fait mes Jeux Olympiques.
Comment?
C'est ça.
Yep. Je veux dire, voilà, j'ai montré mes valeurs, j'ai montré qui j'étais, j'ai bien parlé de Koh-Lanta qui est une grande famille, j'ai bien parlé de moi, j'ai bien parlé de à quel point je suis quelqu'un de bien, de bon, de républicain, tout ça, et puis voilà, et puis que au final tu te fais éliminer, genre oh, c'est dommage, j'étais méritant, et puis qu'en fait il a rien apporté à la saison, quoi.
Oui. Tu es méritant, c'est bien. Tu sais faire du feu. Tu es plus sportif qu'une ménagère de 45 ans. Bravo.
Oui, en plus, oui. C'était pas le plus sportif du cast. En plus, il a bien montré sur les premières épreuves, mais ça a vite été.
En fait, il a pas d'énergie. Il est sportif, il peut faire un truc, il peut courir 100 mètres, mais après, en fait, il a, comme il mange pas, il a pas d'énergie. Il a pas d'énergie. Il reste pas d'énergie du début, quoi. Genre.
D'où le fait qu'il ait un corps plutôt, une musculature plutôt sèche. Et que je dis, c'est que c'est très bien pour la dépense d'énergie au début du jeu, mais qu'ensuite, au fur et à mesure, on le voit, il a les traits creusés et que du coup, l'énergie ne suit plus, quoi.
Bah, c'est un squelette avec un brushing un peu. Vraiment, quand moi j'ai vu que j'entends la bouche, je me dis, ouais, vraiment, il a un brushing et en dessous, il y a des os.
Et il fait peur. Hein.
Ce qui rapproche, en fait, avec Isabelle Balkany au final.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment.
C'est ça.
C'est même pas, je dis, c'est pas ça méchamment, moi je trouve ça drôle, mais.
Pour le montage.
Le pauvre, hein, franchement, moi je vois des trucs comme ça, je me dis comment il tient en fait, genre comment il se lève le matin. Est-ce qu'il y a de la viande là-dessus, vraiment? C'est pour ça, je me dis, il pourrait très bien avoir une élimination comme Charles de Malaisie, genre parce qu'il a plus rien en fait. Genre,
oui, vraiment, c'est rien. Mais Brice, pour revenir un peu sur son parcours, si on se rend compte, il y a la première épreuve qu'il gagne avec Dorian là où il court avec la corde, mais c'est plus des, je vais y arriver, je me suis foiré en épreuve. À côté, pas grand-chose. Il y a son duo avec Marie-France qui est bien pendant deux épisodes, mais qui finit en autre boudin assez vite. Et voilà. Donc, je pense que tout le temps, Brice, c'est « Je vais y arriver, mais j'ai raté. » Et puis, voilà, là, il a gagné. Pour son storytelling, c'est voilà, il va partir par la grande porte parce qu'il a gagné au moins une épreuve. À part si peut-être il va encore gagner une immunité, mais il va pas. Voilà, il est pas dans le jeu, il est dans l'aventure sportive. Dans je vais profiter de ce qui se passe ici et, ah oui, et pas voir plus loin et voilà. Et donc quand on va retenir le Brice dans sa saison, c'est voilà, il était là.
Ouais, c'est ça, c'est que pour lui, Koh Lanta, c'est pas un jeu ou quoi que ce soit, pour lui, c'est des vacances sportives, il est en colonie de vacances, quoi.
Après, ça a l'air quelqu'un de sympathique, hein, je dis pas ça.
Ah oui, bien sûr. Bien
c'est vrai qu'il est pas forcément fait pour Koh Lanta. Et c'est possible qu'on le revoie, c'est ça le problème, en fait.
Du coup, je vous propose qu'on passe ensuite à Alexandra. Alexandra, qui est un personnage qu'on voit aussi aller loin, parce qu'elle est quand même, elle est pas forcément visée. Et qui peut aussi prendre partie de l'élimination systématique des Verts qui étaient plutôt en position de force dans son équipe. Donc elle se retrouve donc avec Loïc, avec Laurent, elle se retrouve chez les Jaunes où elle est quand même plutôt proche des filles. Voilà. Et vous pareil, elle est plutôt bien placée. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on va commencer par Boubac. Bah du coup, vas-y Boubac.
D'accord, elle est bien placée. Elle n'est pas excellemment bien placée, mais bien placée quand même. Elle est bien avec les filles jaunes. Elle a son groupe avec Laurent et Loïc, à qui elle peut se rattacher. Pour l'instant, elle est très très bien. Elle est très très bien placée, notre petite Alexandra. Et puis, elle mérite d'aller loin quand même. Parce qu'elle nous a servi de bons moments de télévision, comme on dit ce soir, notamment avec sa séquence digestion d'hamburger ratée, ou presque. Qui était quand même assez géniale à voir, quand même. Mais elle est bien placée, oui, effectivement.
Madar ?
Bah, ouais, bien placée. Puis en plus, bon, pour l'instant, elle est toujours dans la majorité, donc c'est bon pour elle. Après, est-ce qu'elle a le montage d'une future vainqueur ? Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, de toute façon, elle a un storytelling qui est amusant, quoi. Je veux dire, elle commence, premier épisode, elle perd sa voix, donc du coup, ça rend tout Twitter hilar sur son cas. Je veux dire, à tel point que Space Babies, il fait encore la même blague sur elle depuis le début du jeu, depuis elle a retrouvé sa voix, mais elle a toujours la voix de Sylvester Stallone dans ses parodies. Et du coup, ouais. Non, et puis c'est ça qui est marrant, c'est que ce genre de candidat qui commence tout feu tout flamme un petit peu comme ça, on se dit, bah, au bout d'un moment, ça finit par s'essouffler. Et là, on voit qu'elle nous apporte encore des bons moments aujourd'hui, quoi. Puis là, elle continue d'avoir de la répartie, d'être marrante et tout ça. Je veux dire. Donc déjà, je veux dire, en tant que candidate pour une émission de télé, elle est géniale, quoi. Moi, j'ai envie de la voir plus longtemps. Après, est-ce qu'elle peut aller encore plus loin? Bah, pour l'instant, je veux dire, elle se débrouille plutôt bien, quand même. Elle mène sa barque. Bon, elle s'est retrouvée une fois minorité. C'est-à-dire que dans le conseil des jeunes, elle avait voté contre Jody.
En fait, c'est un peu limite un split, hein, ce conseil, quoi. Donc, bon.
Ouais, c'est vrai.
Parce que je pense que même s'il y avait eu encore un conseil jaune, cette fois-ci, Jody, elle partait, tu vois. Genre. Donc elle n'était pas forcément, même en votant John Dee, elle n'était pas forcément en minorité pour moi.
En tout cas, elle est dans l'alliance majoritaire. Et comme on sait que c'est pas Alix et Dorian qui font la stratégie puisqu'ils en sont incapables, du coup, on peut supposer que la stratégie des jeunes, c'est en partie Alexandra, pas elle toute seule, bien sûr. Parce qu'Angélique et Lola, je pense qu'elles font largement leur part, puis Laurent lui aussi. Même si je pense que Laurent se fait par les trois filles, je pense. Mais bon. Non, je pense qu'Alexandra peut être vachement intéressante sur la suite, et puis on verra quand il y aura les binômes, quand il y aura les moments un peu plus critiques, un peu plus chauds comme ça. Ben, je veux dire, si à un moment on a un affrontement entre Alexandra d'un côté et Angélique Lola de l'autre, est-ce que du coup ça sera super intéressant, ou est-ce que seront toutes les trois ensemble contre le reste du casting? Alors moi j'adore, et si jamais il y a Alexandra, Angélique et Lola qui sortent, Alix, Dorian et Laurent, ça serait marrant. Mais bon.
Mais après, je pense oui, elles sont clairement ensemble, Alexandra, Alix et Angélique. Quand eux parlent Lola et Angélique, parce que quand Angélique parle à Alix, elle dit Alix, c'est sûr, elle est avec nous. Donc c'est un truc qui nous dit que Alexandra est très liée aux femmes, comme on l'a dit juste avant. Donc vraiment, c'est, je pense qu'elle va elle peut aller très loin. En fait, elle donne aussi de la puissance à Lola et Angélique. Avec Fabrice, il y a aussi Alexandra.
Ouais, alors peut-être que je vais prendre un peu plus d'importance, peut-être un peu trop d'importance au fait que Angélique et Lola sont dans la même tribu depuis le départ, alors qu'Alexandra les a rejoints en cours de route. Et qu'Alexandra, en plus, elle était un petit peu, pas en difficulté, mais qu'elle était pas, elle était en délicatesse avec sa tribu verte. C'est-à-dire.
Mais du coup, je pense que c'est ça qui la rapproche encore plus de sa tribu jaune.
Voilà, mais est-ce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière, naturelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu subi? Ça, après, on verra bien sur la suite. Et puis, dans le cas où ça serait subi, ça veut pas dire qu'elle est pas capable de se défendre ou de rester avec elle, ou quoi que ce soit. En tout cas, je pense qu'Alexandra a encore pas mal de choses à nous apporter.
Alors. Par rapport à Alexandra, je n'arrive pas à voir une configuration où Alexandra, à part si elle commence vraiment à être, comme on l'a vu avec, après l'épreuve de confort, où elle irrite un peu les gens avec « Ah, j'ai trop mangé alors que tout le monde a faim », mais sans ce genre de problème que je pense sont plus anecdotiques que réels dans son image, je ne vois pas dans quelle configuration elle va se faire éliminer. Dans son trio avec Lola et Angélique, c'est Lola et Angélique clairement qui sont ciblés par le groupe un peu Laurent, etc., qui acceptent pour l'instant de ne pas les éliminer, mais qui, en vérité, ne veut pas continuer avec elles jusqu'au bout. De l'autre côté, Lola et Angélique, bah, forcément, bah, c'est l'autre côté. C'est plus un Loïc ou un Laurent, ou même Brice ou un ex-rouge qui vont leur poser plus de problèmes. Et elle est absolument sous les radars, quoi. Elle est là, elle est bien placée, elle va voter avec la majorité, elle a des bons liens d'un côté, elle a Loïc qui dit « je ne voterai pas Alexandra ». Quand on voit d'où elle vient, elle a commencé très bas dans l'Alliance des Verts. Enfin, on se rappelle de Hadja qui l'a pourrissé entre guillemets. On se rappelle du fait qu'elle était vue comme quelqu'un de faible. Elle s'est mise en avant dans les épreuves, elle a été très forte, elle a été très importante pour les Verts. Et au fur et à mesure, tous les twists, donc quand il y a une reformation d'équipe, maintenant à la réunification, c'est elle qui s'en est sortie dans les meilleurs, en tout cas dans sa position dans le jeu. Et je vois absolument pas comment elle ne sera pas à l'orientation.
Alors ensuite, donc, on va terminer avec le duo qui était extrêmement mis en avant lors des précédents épisodes, qu'on a un peu moins vu ici, mais qui était là présent quand même. C'est Alix et Dorian. Alors, est-ce que vous pensez toujours que Alix et Dorian vont avoir une influence pour la suite du jeu? Est-ce que vous pensez que leur élimination est proche? Est-ce que pour vous, ces deux sportifs sont les deux sportifs de la saison? Est-ce que ils sont bien placés stratégiquement? Est-ce que vous sentez peut-être un retournement envers eux? On va commencer par Clément.
Ben, je pense que Alix et Dorian, ils sont bien placés stratégiquement, oui, parce que tout le monde a besoin d'eux comme potes, en fait, pour l'instant. Genre les filles, elles ont besoin d'Alix et du coup par extension Dorian pour leur vote. De l'autre côté, s'ils veulent retourner la situation, ils ont besoin d'Alix et Dorian pour retourner la situation. Donc oui, pour l'instant, ils ne seront pas visés. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'ils finiront pas par exemple 6e, 5e parce qu'on n'a plus besoin d'eux, allez hop, ils sont dangereux, on les vire pour l'orientation. Pour moi, oui, elles sont bien ils sont bien placés, pardon, parce que oui, c'est pour l'instant, on a toujours besoin de leur vote. Et ils ont un vote à donner. On va voir. Jusqu'à quand ils vont avoir besoin de ce vote?
Sur Alix et Dorian, c'est clairement les deux personnages de la saison, maintenant que tous les autres ont disparu, malheureusement. C'est les deux personnages de la saison. Je vois pas un avenir à moyen terme pour les deux dans le jeu. Dans le jeu, ils sont très clairement en duo. Mais, et ça, c'est clairement possible, ça peut se retourner contre eux. Les alliés d'aujourd'hui ne sont pas forcément les alliés de demain. Et on peut se retourner contre eux. Et imaginons, hein, que si à l'épreuve des binômes, ils sont toujours là, qu'ils soient ensemble au binôme, ce sera clairement le binôme à viser. Je les vois pas durer à moyen terme dans le jeu, malheureusement, pour eux.
Alors ça, je suis assez négatif sur eux depuis le départ, en disant qu'ils sont bons à rien stratégiquement. Bon, je le pense en partie, après c'était pas complètement vrai non plus. Je pense pas qu'ils puissent dominer stratégiquement, par contre, ils peuvent toujours se mettre en position de refuser une stratégie qui ne les arrange pas. C'est-à-dire que si à un moment, est-ce que cette alliance jaune, est-ce que c'est vraiment une alliance jaune, est-ce que c'est le trio de filles qui fait croire à cette alliance jaune pour garder Alix et Dorian de leur côté? Ça, c'est la suite de la saison qui nous le dira. Après, ouais, je pense que Alix et Dorian peuvent très bien se mettre en opposition par rapport à ça et, sur un conseil ou deux, même jusqu'au sur la fin de la saison, reprendre le dessus sur les stratèges. C'est-à-dire qu'à un moment, les stratèges ne gagnent pas toujours dans Clanta, même assez rarement. Et que des candidats qui sont vraiment sur un modèle de valeur assez basique peuvent parfois prendre le dessus sur les stratèges. Donc, alors, est-ce qu'Alix et Dorian vont encore avoir un rôle dans la saison? Moi, je pense que oui. Ils peuvent toujours. Parce que, ouais, ils ont, et puis, de toute façon, ils ont toujours aussi encore ce côté un peu leadership. C'est sans forcément être les leaders en termes de stratégie, hein, ils ont toujours ce leadership qui fait que ben ils peuvent toujours convaincre des gens de les suivre, quoi. Donc, je pense que ouais, faut quand même toujours se méfier d'eux, quoi. Donc, à voir.
Après, je pense que Alix n'est pas forcément stratège, mais elle est très ouverte à la stratégie. À chaque fois, il y a des Mathieu qui sort, elle le prend bien. Sébastien, Aubin qui sort, elle le prend bien. En fait, elle n'est pas forcément stratège, mais je pense qu'aussi qu'elle accepte la stratégie. Du coup, ça la place mieux potentiellement que Dorian, pour moi.
Oui, pareil. Et même plus... Mais par contre, je pense que en étant les deux, déjà vus en binôme avec l'histoire du collier de la semaine dernière, et les deux plus forts en épreuve, à un moment donné, ils pourront pas gagner. Enfin, ils sont deux, donc il y en a bien un qui gagnera pas l'immunité, et les autres vont à un moment donné, quand le jeu sera un peu plus avancé, et que peut-être les rouges auront plus de marge de manœuvre pour retourner les jaunes, je vois, même si Laurent est méritant sur le coin, etc., je vois pas Laurent dire, ok, bah je vais accepter que quelqu'un prenne toutes les immunités et risque moi et prennent le risque de moi me faire sortir, tout comme je vois pas Lola et Angélique dire ok on y va jusqu'au bout, sachant qu'il y a deux colliers, que je pense que j'espère qu'ils vont être bien utilisés, comme tous les colliers. Alors si Lola utilise bien ses deux colliers, tous les colliers de cette saison auraient été bien utilisés, ce qui serait miraculeux. Mais donc je pense vraiment que Alix et Dorian auront plus de mal à arriver à l'orientation ou en finale, en tout cas tous les deux, que n'importe que le binôme pour moi Lola ou Lola Angélique ou même Alexandra.
Et enfin, une candidate, mais qui est complètement cachée au montage, et c'est incompréhensible parce qu'elle est plutôt bonne en épreuve et que elle a dit sur Twitter récemment qu'elle était partie chercher un peu de mastic pour consolider les alliances, donc elle n'est jamais visée par les votes. C'est Ava. Et ça, c'est Ava, c'est incompréhensible parce qu'elle n'est pas montrée au montage quasiment. On entend très peu ses confessionnaux. Alors que, comme j'ai dit, elle a plutôt des bonnes performances, elle a l'air d'être plutôt appréciée. Pour vous, Ava, justement, le personnage, le si peu qu'on en a vu, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour vous, qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'elle est aussi peu visible au montage? Et on finira là-dessus.
Bah, Ava, moi, je la trouve plutôt très intéressante quand on la voit, quand elle parle stratégie, par exemple, quand elle parlait de. Quand il y a eu le moment où Aubin utilisait son collier, elle disait bah, j'hésite entre voter quelqu'un qui est plus faible, mais sauf si je vois quelqu'un plus faible, la prochaine plus faible, c'est moi. Donc, elle a toujours des petites réflexions, des bonnes réflexions, en fait, et après, quand on la voit dans les épreuves, bah, l'épreuve par contre, du combattant, elle finit deuxième des femmes, ce qui n'est pas montré. Tout le monde pense que c'est Lola, mais en fait, c'était Ava, quoi, ce qui a été dit après. Là, à la balance, c'est juste à côté de Brice, et je pense qu'elle aurait très bien pu gagner, genre. Et Brice est en train de bouger quand elle est tombée, du coup. Voilà, je pense qu'on c'est vraiment un potentiel gâché. Enfin, non, c'est pas un potentiel gâché parce qu'elle mène bien sa marque, mais niveau audimat, à niveau de ce qu'on montre, c'est quelqu'un qu'on aurait pu montrer beaucoup plus. Un peu comme une Cindy, je pense. Enfin, pas à ce point-là, mais genre, quelqu'un qui aurait. Enfin, je sais pas la suite de son aventure, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup à raconter, je pense, et on n'en raconte pas assez sur elle.
Sur Ava, j'étais très contente de la voir au début de saison, notamment lors de l'épisode d'élimination, lors de l'élimination de Mathieu et au troisième épisode, parler de jeu tout simplement, parler avoir beaucoup de développement du personnage stratégiquement parlant. Et puis depuis là, et depuis cet épisode, elle a complètement disparu. On ne sait pas où elle est placée. Elle a l'air d'être bien placée dans les épreuves. Elle est là, elle est présente. Et effectivement, je ne comprends pas pourquoi le montage l'a complètement zappé. Ça l'amènera où, je ne sais pas. Même Jody, qui paraissait être dans le même cas de figure, a eu un peu de développement de personnage lors de cet épisode. On va espérer que ça va arriver la semaine prochaine, mais on n'en est pas sûr. Mais il faut absolument qu'elle soit visible avant la fin, parce que ça serait du gâchis si ça n'était pas le cas.
Ce que je pense de Ava, c'est que on a dit profil à la Cindy, mais Cindy est arrivée en finale, et je pense que c'est pour ça qu'on la montre. Je pense que si Cindy se foire un peu plus tôt, on la montrera pas, parce qu'on n'a pas envie de montrer ce genre de personnage sur Koh-Lanta, j'ai l'impression. Et c'est très décevant. 24 candidats, forcément certains allaient se voir moins que d'autres, mais là, limite, moi j'aurais été à la place d'Ava, je me sentirais vraiment, vraiment, vraiment volé par tout. Alors moi je fais... Elle a tout fait jusqu'ici, elle a participé, elle n'est pas nulle aux épreuves, elle est un peu stratégique, elle a l'air d'avoir un social assez bon parce qu'elle n'est pas visée par les autres et elle n'existe pas au montage. Et je trouve ça scandaleux, au moins scandaleux, minimum.
Eh bien moi je me laisse un petit peu avoir par le montage parce que c'est vrai que du coup j'ai du mal à me faire un avis sur Ava. Je sais effectivement, bon, peut-être qu'il y a certaines choses que j'analyse de manière moins pointue que d'autres, et ce qui fait qu'Ava, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur elle. Et c'est vrai que je rejoins par contre tout ce qui est dit, quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'est un peu dégueulasse d'avoir une candidate qu'on ne montre pas alors qu'on est déjà. On va arriver à l'épisode 10, quoi. Et qu'elle est. Elle semble impliquée dans tous les compartiments du jeu. Et le problème, c'est que déjà, effectivement, un casting qui est trop copieux, ce qui fait qu'on ne peut pas tous les montrer. Mais à un moment, voilà, c'est. Alors, peut-être que du coup, elle n'est pas super télégénique, ça je veux bien le concevoir, mais bon, à un moment, on est Koh-Lanta, je veux dire, c'est quand même une émission, c'est les épisodes sont quand même assez longs, avec pas mal de remplissage. Je pense que parfois, il pourrait se permettre d'équilibrer un peu le montage, donc, plutôt que de faire du remplissage, à montrer les séances de pêche ou je sais pas quoi, je veux dire. Voilà, faire du remplissage utile, quoi. Donc, après, la saison n'est pas terminée. C'est vrai qu'il reste encore des épisodes, elle peut encore se révéler. C'est comme pour Jody, elle peut très bien remporter une épreuve de confort et énormément se montrer à ce moment-là. Surtout que, voilà, c'est... Donc, ouais, voilà, après, là, elle est en difficulté stratégiquement. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle. Mais est-ce qu'elle va partir de manière complètement... est-ce qu'elle va partir de manière complètement anecdotique? Est-ce qu'elle avec c'est la prod? Parce que ça aussi, ça peut arriver. On sait que la prod est un petit peu rancunière parfois, vers les candidats qui, à un moment, ont perturbé leur plan, un truc comme ça. Donc, à voir. Mais c'est vrai que je suis assez perplexe quand même sur ce pourquoi mettre une candidate qui va aussi loin, ne pas la montrer, faire quasiment comme si elle n'existait pas. Je comprends pas.
Très bien. Bah écoutez, c'est là-dessus que l'épisode va se terminer. Donc, pas de Kikadi aujourd'hui, donc on va attendre le retour de Freeze normalement la semaine prochaine. Bah, ça a été un.
Mais non, mais je devais rattraper.
ça a été un.
J'avais 3 points, je veux me rattraper Jeanne et moi.
Ah bah écoute, voilà, celui-ci, tu auras l'occasion de revenir et puis tu pourras.
Il faut me refaire revenir en même temps que le Kikadi.
Voilà. Bah, du coup, merci à vous parce que ça a été là presque une heure et demie de discussion très poussée, très intéressante. Donc merci à Boubac pour une deuxième fois.
Bah, merci les gars. Merci beaucoup pour ce deuxième passage. C'est très intéressant, effectivement.
Merci, Clément.
Il n'y a pas de souci, hein, Frédier.
Encore, fais la fin en accent ch'ti, justement. Enfin, ce que tu peux faire.
Mais tu veux me dire, c'est quoi, tu dises quoi?
J'en sais rien. Enfin, tu dis un truc normal et tout. Tu dis, je t'ai pas content d'être là, hein.
Mais ça, c'est pas du tout l'accent ch'ti. Bah si, un peu, c'est vrai. C'est plus ça, c'est l'accent du Pas-le-Calais, ça. Eh, la queue comme tout le monde, hein. Buloute.
Bon, bah merci du coup, Clément.
Oh, c'est cliché.
Ce petit côté un peu exotique, hein, pour les gens comme moi qui viennent du nord de la France, mais pas ce nord-là.
Oui, mais toi, tu viens du nord de Paris, c'est pas pareil.
Ah non, moi, je viens...
On n'accepte pas n'importe qui.
Je viens de l'ouest de Paris, je viens de la Sarthe.
C'est pareil. C'est pareil, quoi. Normalement. C'est le sud, quoi. Refaites vos cartes, s'il vous plaît. Dans le nord, c'est le nord. Tout en dessous, c'est le sud. Bref.
Du coup, je vais remercier quelqu'un qui est encore plus au nord que toi, c'est Wilson. Merci beaucoup.
Merci. Je ne ferai pas l'accent belge. Je suis désolé.
Mais merci. Tu vas pas faire l'accent belge ?
Voilà. L'accent belge, en général, c'est quelque chose. Ça n'a pas bougé depuis l'époque de Coluche. Et c'est un accent que personne ne parle, visiblement. C'est un accent qui fait surtout marrer les Français.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est moi, je fais mieux l'accent belge que l'accent du nord. C'est mon sang belge.
Ouais, merci, c'est un très bon épisode.
Madar.
Oui, moi j'ai pas d'accent, je viens d'Auvergne, on est normaux, nous. Donc, pourquoi vous dire, j'ai l'impression d'être vachement ennuyeux, je suis pas dans le thème de la saison, je suis pas dans le thème des accents, donc là je sais pas quoi vous dire.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous tous pour avoir partagé cet épisode avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10, donc peut-être binôme, pas binôme, on sait pas encore, mais... En tout cas, c'est une bonne petite saison.
Ouais, c'est 11.
Oui, déjà.
11.
Merci Laurent.
En plus d'être mauvais, il ne s'est pas compté. Super.
Non, je suis en pleine forme, je vous rassure. Et non, je ne suis pas bourré. Là, c'est Plancaster qui dit des bêtises.
Ils sont 11.
Donc, c'était Damien. Et je vous dis à la semaine prochaine et bon après-midi.
Ciao.